présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée. Il ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Avec sa femme, il lui dit « C'est Cliff qui est responsable de la mort de notre fille. Elle ne serait jamais partie si Cliff ne l'avait pas refusée. C'est par dépit amoureux qu'elle nous a quittés pour aller cacher son chagrin au loin. C'est de sa faute si elle est morte. » Sa femme, qui est dépressive depuis la mort de sa fille, elle est fragile, elle aimerait tellement avoir quelque chose qui déculpabiliserait son mari de cette mort atroce. Comme elle le souhaite ardemment, comme il lui donne sur un plateau d'argent le pourquoi de la mort de sa fille, et qui est plus supportable que la réalité, alors elle s'y engouffre comme une personne qui ne peut pas supporter la réalité. Elle dit à son mari, « Tu as raison. » Elle se met à détester Cliff, ce qui lui permet de retrouver son amour pour son mari et de pleurer la mort de sa fille avec lui. C'est tellement mieux que de pleurer seul. Mais comme il n'est pas coupable, elle peut pleurer avec lui maintenant. Elle veut se venger. Elle prend la main sur la table de son mari et lui dit « Nous sommes bien malheureux. Et c'est à cause de ce blanc bec. » Il est heureux Il a gagné. Il a retrouvé son honorabilité. Il a un père qui a perdu sa fille à cause d'un autre. Madame Beaulieu. A une haine terrible contre Cliff. Toute la haine qu'elle avait contre son mari, elle l'a mise contre son Cliff. Et elle veut, pour sa paix, pour la paix de son couple, que ce soit Cliff le coupable. Elle le veut tellement qu'elle le croit. Et on oublie comment les choses se sont vraiment passées. Cela lui permet de pouvoir pleurer contre l'épaule de son mari, s'appuyer sur son bras au lieu d'être seul. Et puis la haine d'un étranger, c'est plus facile à supporter que celle d'un membre de sa famille. Elle, qui pendant des années était seule à pleurer, aïe, n'est plus seule. Et ils ont tous les deux un même but. Cliff a éliminé, à mettre sur lui le crime. L'accuser de tout. Les horreurs de la famille. Oui. Alors, chaque fois qu'ils vont quelque part, dans les soirées, elle dit que c'est Cliff qui est responsable de la mort de sa pauvre fille. On la plaint. On dit une femme grosse et blonde dans les 65 ans, robe jaune vive, ça ne m'étonne pas. Je savais bien que ce jeune homme avait quelque chose de pas très catholique. Et puis, cette pub qu'on a fait sur lui, lorsqu'on était dans le pays, quand il était dans le pays, il nous a dénigré et même refusé de faire danser ma fille. Madame Beaulieu lui dit, c'est mieux pour votre fille. Vous avez vu ce qui est arrivé à la mienne. Et on la plaint, Madame Beaulieu. Plus on la plaint, mieux elle se porte. Parce que si on la plaint, c'est que l'on sait qu'elle souffre. La pauvre femme. Le mari l'espère et rit de ses histoires de bonne femme. Bien au contraire, ça l'arrange et le purifie. Nanar de Flip ne sait rien. Ni Didier ne vont pas dans ces soirées. Et comme ils n'y vont pas, pour les humilier, ça humilie les gens. Ils se vengent en disant n'importe quoi sur eux. En même temps, ça leur permet de trouver un bon prétexte de leur absence dans leur soirée. Ils disent, on ne peut pas inviter des gens comme ça qui ont fait tant de mal au Beaulieu, etc. Mais si Madame Recourtois
Marissa
venait
toutes mes félicitations. Je prends
à ces soirées,
merci. Je prends l'avion pour Los Angeles.
Ils en seraient fiers et heureux et diraient que les Beaulieu sont des gens peu fréquentables.
Oui, je savais
et qui disent n'importe quoi sur n'importe qui.
Non, bien sûr que non. Bienvenue, mon cher Tad.
Merci, Ralph.
Oh, mais entrez. Vous pouvez monter ces bagages dans ma chambre.
Brigitte est toujours enfermée dans sa chambre. Elle se dit qu'elle est enfermée au milieu de fous furieux. La Godin, un soir, en lui apportant son potage, lui dit « Je t'ai pas tout dit. Votre oncle, enfin, ton père, le mari de ta mère, et d'une façon sacrilège, dans une église, il l'a tué. » Brigitte lui crie, « Arrête! J'ai l'impression de devenir folle. Ce sont des monstres. Je ne peux plus. Que faut-il faire? Pourquoi ont-ils fait ça ?» Il lui dit, « Parce que vous êtes promise. Les signes sont là. Vous devez engendrer sa descendance diabolique. » Brigitte lui dit, « Ça suffit. Je ne veux plus en apprendre. C'est terrible. Ces hommes sont des monstres. Je ne veux pas. J'aimerais mourir. Oui, mourir. » La vieille lui dit, « Ne faites pas cette bêtise. Vous êtes jeune. Il peut arriver des choses. » Son nom ne vient plus la voir. Depuis qu'il est enfermé, il veut la dresser en la laissant dans la solitude. La guerre fait rage en Afrique. C'est dur. Des deux côtés. Les SDF, vagabonds, chômeurs, sont pris. On les mène. Dans les environs des villes. Et puis, dans des trains pour aller à Marseille, en Afrique.
Attention !
Et là,
à mon commandement !
On leur donne des instructions.
Instruction
rapide.
Devant à présent de nouveaux fusils, je crois qu'ils seraient bons de revoir une méthode de tir.
Des vêtements, des brodequins, pris sur les morts.
Rechargez !
En plastique.
Sergent !
Des chaussures en PVC, légères, et des fusils avec seulement 5 balles.
Reprenez position !
Nous avons à présent de nouveaux fusils. Je crois qu'il serait bon de revoir nos méthodes de tir.
Sir ?
Puis, on les envoie se battre. En première ligne. On les fait passer par la bataille en premier. On sait que c'est de la chair à canon pour que les ennemis vident leur minuterie sur eux. Comme ça, ils se le dorment. réguliers viendront après. Il y aura moins de morts. Riquin. Ben, la clinique Riquin est furieuse. Je pense que c'est SDF. Le directeur de la clinique Riquin, un homme de 40 ans, grand, mince, blond, costume gris, a demandé un entretien franc-blanc pour ce problème. Monsieur Franc-blanc le reçoit dans son bureau. Dans son bureau, il lui dit « Je vous écoute. J'ai un grand problème. Il me manque des greffes pour les poumons et le corps. J'ai plus de SDF. » Franc-blanc lui dit « Je croyais que les SDF ne faisaient pas grand-chose. Ils étaient en très mauvais état. Mais dans le temps, il y a des jeunes. Et on peut trouver des choses intéressantes. En plus, je peux envoyer ce qui n'est pas bon aux usines Pontoise pour faire du pâté pour animaux. Là aussi, j'ai du manque à gagner. Vous comprenez, les sorties des écoles ne me suffisent plus puisque vous en prenez pour les envoyer dans vos écoles. Vous en avez certainement suffisamment, vous pourriez m'en laisser. Alors, que faire si je n'ai plus de greffe? Adieu mes clients. Franc-blanc lui dit, avec le système ADN, la refabrication de l'organe, oui, mais ça coûte très cher. Franc-blanc réfléchit et lui dit, j'ai une idée. Les corps qui sont en Afrique, on va vous les expédier chez vous. Comme ça, vous aurez vos organes. Surtout, qu'ils ne soient pas trop amochés. Vous voyez, une balle dans un foie et le foie est perdu. Les attentats continuent en France, les gens ont peur de sortir chez eux. La police surveille tous les résidents étrangers en France et expulse le plus qu'ils peuvent. Mais c'est pas facile parce que les droits de l'homme, etc. Tous ces milieux associatifs empêchent les expulsions. Chaque fois qu'ils veulent expulser quelqu'un, il y a une manifestation. Des gens se cachent de la police apparaissent. Et la plupart de ces manifestations se terminent par des bagarres, une émeute. Parce qu'il y a toujours des nationalistes qui s'attaquent aux autres. Et la police est prise entre les deux camps. Elle abandonne alors. La plupart du temps, ceux que l'on devait expulser sont morts dans les meutes, vus, qui sont tués par des balles perdues. Et même par ceux qui les défendaient, auront tirer dessus sans faire attention. mettre des feux à des immeubles, des voitures qui explosent. C'est un véritable désastre. Brigitte boit du noir et ne mange plus. La Godin vient toujours lui apporter les repas. Elle lui dit, il faut manger, prendre des forces. Brigitte lui dit, à quoi bon? L'autre lui dit, j'ai réfléchi à quelque chose. Je peux vous sortir d'ici et quitter Lyon. Brigitte est surprise et tout heureuse. Comment? L'autre lui dit, je vous guiderai. Elle embrasse la vieille et lui demande, pourquoi faites-vous ça pour moi? Parce que il m'a humilié plus d'une fois. Et je sais ce que c'est que d'être sa chose. J'ai pitié de vous et veux me venger de lui. Alors, vous allez bien manger. Parce que ça va être difficile. Et dans une semaine, nous allons agir. Elle lui demande. Quoi? Dans une semaine? Pourquoi pas de suite? David lui dit. Parce que dans une semaine, il va partir un jour à Paris. Et là, nous serons plus libres. Alors, vous allez vous recaquer, bien manger. Et puis après, nous agirons. Nous agirons. Je viendrai vous chercher. Brigitte est toute heureuse. Toute heureuse. Elle va enfin pouvoir quitter ce cauchemar. Les jours passent. Reprends patience. Courage. Elle mange. Et se repose. La vieille ne lui dit plus rien. Un matin, elle lui dit, ce sera ce soir que nous partons. Reposez-vous et restez bien habillée. Brigitte, tout excitée, ne tient plus en place. Durant toute la journée. Puis le soir, il est l'heure de la soupe. La vieille le lui apporte et lui dit, nous partons dans 2 heures. Il est parti cet après-midi. Deux heures plus tard, il ouvre la porte de la chambre. Elle a de vieux vêtements. Des vieux vêtements, des chaussures d'homme et un chapeau de femme. Elle lui dit, vous allez vous habiller avec ça. J'ai réfléchi. Il faut vous cacher parce que si on rencontre quelqu'un, cacherez bien vos chaussures, vos cheveux, je veux dire, sous le chapeau. Faites vite, vite. Brigitte se change. Ça la dégoûte. de mettre ses vêtements. Ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Une fois habillé, ils sortent de la chambre en faisant bien attention. Il n'y a personne dans l'appartement. Et sortent de l'appartement. Une fois dehors, il fait nuit. Les rares passants passent en les regardant. La rue est mal éclairée. Brigitte suit Gaudin, anxieuse. Elle marche d'un bon pas. Un vieux SDF ridé, sale, leur balle un passage. Il dit à la vieille, tu es la Gaudin? Qu'est-ce que tu fais ici? La vieille lui dit, je vais faire une course. Le tu dis, le prêtre t'avait dit que tu devais surveiller sa promise. Oui, elle est chez lui. Fermez la clé, j'en ai pour 5 minutes. Et qui est celle-là qui est près de toi? Il se penche sur Brigitte. La Gaudin lui dit, c'est ma cousine. Elle est venue me dire un petit bonjour. Il tend la main pour voir Brigitte qui recule. Et vient lui dire, laisse-la. Il la laisse, penaud, mais dit, je vais surveiller la prisonnière, la promise. La Gaudin lui dit, elle doit dormir, ne la dérange pas. Le vieux s'éloigne. La Gaudin dit. La Gaudin dit. Venez vite. Elle quitte la rue. Après un petit parcours, elles arrivent rue du Sergent Blandan. Et là, il y a un passage qui mène à la rue de la Martinière. Dans le passage, la vieille se penche dessus. Une espèce de plaque de pierre qui semble fermer un trou. Elle sort de sa poche une sorte de burin et avec le burin, elle passe, elle fait tout le tour de la plaque pour déceler la pierre qui est retenue par la terre. Elle dit à Brigitte, il faut que je fasse vite. Regarde si on nous voit. Si on nous voit, nous sommes perdus. Brigitte regarde autour d'elle. La rue et la place sont désertes. Puis, elle voit que la plaque est décellée. Elle prend une petite barre à mine qu'elle met dans le crochet qui se trouve au milieu de la plaque. Elle essaye de soulever la plaque. C'est lourd. Elle demande à Brigitte, viens m'aider. Elle donne le burin à Brigitte pour qu'elle puisse l'aider. Enfin, elles ont réussi à déceler la plaque. Vite, la vieille sort de derrière, de dessous sa robe, enroulée au ventre, une corde. Puis, elle fixe la corde à la porte du passage et jette l'autre bout de la corde dans le trou. lui prend une lampe et dit, allez, il faut descendre. Brigitte tremble et dit, comment, j'ai jamais fait ça. La vieille lui dit, c'est pas le moment de pleurnicher. Ou tu descends pour quitter cette ville où la vie te crève. Je descends la première. Et la vieille prend la corde et s'enfonce dans le trou. Brigitte, apeurée, se penche pour voir. Mais elle ne voit qu'un faisceau de lampe qui gigote. Un grand plouc. La vieille lui crie, vas-y, j'y suis arrivé, en bas. Allez, c'est à toi. Brigitte, tremblante, prend la corde et descend. Au fur et à mesure qu'elle descend, elle sent que ça sent mauvais et que c'est humide. Elle est apeurée. Ses mains lui font mal. Elle n'y voit rien. Puis, tout d'un coup, elle sent avec effroi que la corde... Il n'y a plus de corde. Il n'y a plus de longueur de corde. La vieille lui dit, saute ! Tremblant, elle regarde en bas et voit la vieille avec la lampe. Il y a à peu près un mètre à sauter. Elle tremble de tous ses membres. La vieille lui dit, saute, idiote. Allez, vas-y. Allez. C'est pas difficile. Moi, j'y suis bien arrivé. Allez, ferme les yeux et vas-y. Elle ferme les yeux. Et lâche la corde. Elle se trouve à terre. Près de la vieille qui l'aide à se relever. Elle lui demande, ça va? Brigitte dit, oui. Allez, il faut y aller. Il y a du chemin à faire. Viens. Et elle suit la vieille. Elle marche sur la terre humide. La paroi, c'est de la pierre. Il y a des toiles d'araignée. Ça sent très mauvais. Il fait de plus en plus humide. Et l'air est vicieux. Et puis, ça sent très mauvais. La vieille marche devant elle avec sa lampe. Brigitte suit. La paroi est de moins en moins haute. Il y a de plus en plus d'humidité. Et il fait chaud. Ça descend en pente. Arrivée à un endroit, elles aboutissent à un mur où se trouve un trou. Elle lui dit, faut passer le trou. Et elle passe le trou. Après, c'est un long passage, un long couloir plutôt, avec des tuyaux, de gros tuyaux, en hauteur. Ça sent très 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 mauvais. La vieille lui dit, ce sont les égouts de la ville. Viens. Et elle suit la vieille. En passant devant un tuyau, elle voit avec effroi un rat, un énorme rat qui la regarde. La vieille se retourne. Est-ce que tu as là, un rat? Laisse-le tranquille, viens. Après un long périple, La vieille l'a fait passer par un autre trou. Cette fois, descend en pente douce et va aboutir plus bas. Ça sent très mauvais. Une odeur doux, pourrie. Elle marche encore pendant un long moment. Brigitte en a un peu marre. La vieille est plus résistante qu'elle. Après un long périple, elles ont pris une galerie qui monte et voient au bout une porte avec des barreaux. De l'ombre et le ciel étoilé. La vieille lui dit, voilà, c'est là la liberté. Elles y vont. Elles sont toutes les deux épuisées. Elles sont très toutes seules. Arrivées vers le portail, la vieille veut le pousser. Il y a des broussailles qui se sont pris à lui. Après plusieurs essais avec Brigitte pour aider, elles ont réussi à l'ouvrir. Elles sortent et se trouvent en plein dans les broussailles. Avance et essaye de trouver un endroit plus facile à la marche. Ils aboutissent à un champ. Au milieu de ce champ, il y a une grande maison. Dans la nuit, on ne peut voir que c'est qu'une masse grise. La vieille lui dit, nous sommes à Oulin, près de Lyon, dans le parc du château d'Oulin. Viens, il faut sortir du parc. Et elles vont vers le mur de la propriété. La vieille lui dit, tu grimpes à l'arbre qui est contre le mur. Et tu sautes de l'autre côté en grimpant sur la branche pour aller de l'autre côté. Brigitte panique, elle dit, mais comment faire ça? Tu montes à l'arbre et tu vas jusqu'à la branche. Hein? Tu te mets à califourchon sur la branche pour avancer. Après, au bout de la branche, tu sautes et tu te trouves de l'autre côté. Là, tu es sur un chemin. Tu suis tout droit. Enfin, en allant à droite, tu aboutis à une route. Et là, tu fais du stop pour prendre le train. Et lui dit, mais avec quel argent? Tu te débrouilles. Allez, vas-y, grimpe. Brigitte lui dit, toi d'abord. La vieille lui dit, moi, je reste. Je ne vais pas plus loin. Je reste ici. Je retourne à Lyon. Je suis vieille. Et je veux rester à Lyon. Je me cacherai chez ma sœur, la Fourvière. N'osera pas aller me chercher. Là, les ondes maléfiques ne sont pas bonnes chez ma sœur. J'ai pu dire, alors, tu me laisses? Oui. Nous avons fait le plus difficile, ma fille. Il fallait sortir de cette ville lugubre. Et ça a été fait. Et si tu dis, vous y retournez, moi, ce n'est pas la même chose. Je ne peux pas faire autrement. Je suis à la ville. Allez, va vite. Plus vite tu seras parti, mieux ça vaudra. Tu veux aller à Paris, n'est-ce pas? Oui. Merci. Pour tout. On va La vieille lui dit, allez, vas-y. Et que vas-tu devenir? Ne te fais pas de soucis pour moi, allez. Brigitte hésite, puis grimpe à l'arbre comme elle peut. Elle n'a jamais fait ça. Arrivée à la branche, elle se prend avec ses deux mains, puis se redresse et se trouve sur la branche. Alors, elle se met à quatre pattes et avance jusqu'au bout de la branche. Arrivée au bout, elle regarde en bas, voit un petit chemin de terre qui fait tout le tour de la propriété et autour il y a des champs. Alors elle ferme les yeux. Il y a peut-être 3 mètres à sauter. Et elle saute. Elle se retrouve sur le sol, couchée, se redresse. Elle n'a rien. Elle suit le chemin, comme m'a dit la vieille, et se trouve sur une route. Marche droit devant elle, sans savoir où elle va. Il fait doux et nuit, bien nuit, on n'y voit pas grand-chose. Elle voit une voiture qui arrive droit devant elle. Elle se met sur le côté et lui fait signe pour qu'elle s'arrête. La voiture s'est arrêtée. Glace, qui est du côté chauffeur, se baisse. Et un jeune homme, cheveux blonds, dans les 22 ans, costume gris, lui demande « Vous désirez ?» Elle lui dit « Pardonnez-moi, mais pouvez-vous me mener à la gare la plus proche ?» Il dit « Oui, bien sûr, montez !» Il ouvre la portière qui est à côté de lui. Elle entre. Elle lui dit « Merci !» Et il met la voiture en route. Il lui demande « Que faites-vous sur cette route, la nuit, à kiffer, comme ça, vous venez d'un bal costumé ?» Elle lui dit « Oui !» Il lui fait « Et vos amis vous ont laissé tomber ?» Elle lui fait « Oui !» Et vous allez prendre le train. Oui, pour rentrer chez moi. C'est loin chez vous. Où assez, c'est à Paris. Il lui fait Paris. Et vous êtes venu juste pour une soirée. Elle lui dit. C'est-à-dire que j'étais invité à séjourner chez une camarade, une amie plutôt, et la soirée a mal tourné. Ah. Vous êtes déguisé en quoi? Elle lui dit. Je voulais me déguiser en vieille femme. Il lui dit. C'est presque réussi. Vous avez même des toiles d'araignée. Et vous croyez que vous pouvez prendre le train comme ça? Elle lui fait. Pourquoi pas? Il lui dit. Si vous voulez, je vous emmène chez moi et vous pourrez vous changer. Elle lui dit, merci, mais je n'ai pas de linge de rechange. Je pourrais vous prêter ceux de ma mère. Elle lui demande, que vous avez son autorisation. Il lui dit, ma mère et moi, on est deux doigts de la main. Alors, de toute façon, vous ne pouvez pas le prendre. Le train, comme ça. Je ne peux pas vous le permettre. On ne vous permettra pas. Elle lui dit, je ne sais pas. J'ai déjà eu assez d'aventures. Il lui dit, mais celle-là sera agréable, je vous assure. Elle lui dit, bien, je veux bien. Mais vous me mènerez à la gare après. Il lui dit, bien sûr, jurez. Bien, allons-y. Est-ce loin ? Non, pas très loin. Elle est un peu gênée et se dit que sans vêtements propres, elle ne peut pas partir. Puis, il prend une petite route va s'arrêter devant une propriété entourée d'un muret. Et lui dit, c'est ici, sort de voiture pour aller ouvrir le portail. Puis, reprend sa voiture. Il l'amène à la maison, qui est une maison toute blanche d'un étage moderne. Il commence à faire un peu jour. La porte de la maison la fait entrer. Éclair. Tout est blanc, meublé moderne, riche. Il lui dit, suivez-moi. Elle lui fait monter des escaliers de verre. Arrivé au premier étage, il ouvre une porte. C'est une salle de bain. En marbre crème. Il lui dit, voilà, vous pouvez vous nettoyer. Elle lui dit, merci. Et il la laisse. Vite, elle se déshabille. Et en se déshabillant, elle voit que dans la poche de sa veste, il y a une carte. La regarde et voit que c'est la sienne. Terre le lui avait pris et la vieille a dû la lui rendre. Ouf, elle pourra payer le train. S'il reste de l'argent, bien entendu. Une fois nue, elle va à la baignoire pour faire couler l'eau. Elle a mis un certain temps à comprendre le maniement des robinets. Voit sur le rebord de la baignoire un flacon de bain mousseux. Elle en met et entre dans la baignoire. Après, elle sort de la baignoire. Zut, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de serviette ni peignoir. vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Pierre. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.